Merci pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Vin, je suis l'un des pasteurs ici à Willingdon. Je suis heureux de pouvoir prêcher la parole de Dieu alors que nous continuons le culte. Aujourd'hui, en poursuivant notre série sur David, nous allons arrivons à une juste avant d'y arriver, la semaine passée, j'ai eu le privilège de prêcher à Aston White Heights et tout se passe bien. Vous devriez aller voir ce que Dieu est en train de faire à Coquitlam là, mais dans cette dans ce milieu, vous savez, aller parler, dire ce que Dieu est en train de faire là-bas à propos de cette église. Voudriez-vous considérer cela? Alors aujourd'hui, en poursuivant notre série sur la vie de David, nous arrivons à une partie de sa vie à laquelle je pense immédiatement lorsque l'on mentionne là où nous, chrétiens et non-chrétiens, pensent, connaissent l'histoire et pensent immédiatement lorsque l'on mentionne le nom de David et de Bathsheba. Récemment, si vous savez, une liaison publique lors d'un. C'est une liaison publique lors d'un récent concert est devenue virale. Si vous connaissez, si vous savez, j'ai. Et si vous savez pas, on va en parler, ce qui s'est passé à ces concerts. Les réactions étaient diverses. Les réactions étaient diverses, de gauche à droite, du milieu. Certains ont blâmé le couple, d'autres l'opérateur de caméra, mais cela a suscité une question culturelle plus profonde. Pourquoi cet incident a-t-il provoqué un tel remous? Et ça, que nous puissions croire à la fidélité, à la responsabilité, de droits individuels. Les gens disent qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils veulent. Les attentes du mariage, il n'y a pas des attentes du mariage. Comment tu définis l'amour? Est-ce que c'est faire ce que tu fais? Est-ce que ça est définir le tout cela des gens venant des gens? C'est les critiques, toutes les choses qu'on dit en ligne, et ça vient des gens et d'un pays qui accepte la compagnie comme Ashley Madison. Et leur slogan était: La vie est courte, ayez une aventure. C'est tentant, n'est-ce pas? Mais bien avant 2025, là où on se trouve aujourd'hui, la Bible rapporte ouvertement, avec des détails douloureux, l'histoire de l'adultère la plus célèbre de toute l'histoire. Elle ne cache rien et montre toutes les conséquences déchirantes qui en ont découlé de cette infidélité. Alors, j'ai 3 points pour le message aujourd'hui, c'est le scandale, la souffrance et puis l'abandon. Le scandale, la souffrance et l'abandon. Allons au premier point. Souvenons-nous, même si notre lecture d'aujourd'hui concerne l'incident de David et Bathsheba, je veux commencer par la façon dont cela a commencé. L'Écriture nous montrera comme Dieu finit pour racheter la brisure de David. C'est plus important que que ce scandale. Le premier point, le scandale. L'histoire de David avec Bathsheba se trouve en 2 Samuel, chapitre 11. Et la scène d'ouverture est inquiétante. Et ça devrait vous inquiéter. Si vous avez votre Bible, ouvrez avec moi 2 Samuel, chapitre 1. chapitre 11, verset 1, qui dit « Au retour de l'année, au temps où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël. Ils bâtirent les Ammonites et assiégèrent Rabba, mais David resta à Jérusalem. » Comme vous pouvez le voir, probablement Nathan ou Gad, l'auteur, nous donne les détails que je voudrais souligner. La première chose mentionnée est la saison, la période de l'année. La saison de pluie vient de se terminer. C'est ce moment, il est en train d'indiquer il n'y a plus de pluie, alors donc c'est le temps du printemps. Et c'était un temps d'aller à la guerre. On s'entendait à ce que les rois partent au combat. Et c'est là le commencement de l'histoire. Et ça, c'est l'attente de ce moment où le roi va au combat. Rien d'inhabituel jusqu'à ce que nous lisions le... Rien d'inhabituel jusqu'à ce que nous lisions le premier mouvement de David. Le premier mouvement dans le verset 1, s'il est dit, après la saison, David, il envoie son commandant militaire. Ça, c'est le premier mouvement. Et le commandant militaire, il est aussi son neveu. Il envoie pour conduire le peuple de Dieu au combat. Mais la question est celle-ci. Le travail de diriger, de guider le peuple de Dieu à la guerre, c'était le roi du roi. C'était le rôle du roi et non de Joab. Il est supposé lui-même, il y a une attente même qu'il soit à la première ligne avec son peuple en train de se battre. Au lieu de cela, qu'est-ce qui est dit dans le premier verset? David reste chez lui. À Jérusalem. Il est censé être à l'extérieur avec les autres, conduire son peuple comme le roi combattant devrait. Et l'histoire continue dans le verset 2. Qu'est-ce qui se passe, cet incident? Un soir, David se leva de sa couche et se promena sur le toit de la maison royale. Du toit, il aperçut une femme qui se baignait et cette femme était très belle. L'histoire continue, nous apprenons que tard dans l'après-midi, un autre indicateur, David s'élève enfin de son divan. Maintenant, ce qui montre que ça c'est un majeur problème parce que il se lève de son divan. Cela montre qu'il est resté oisif pour la journée. Certains diraient il est resté inactif. Ça, c'est le point du verset 2. Il est resté inactif, ne faisant rien pour une longue période. Ça, c'est le point 2. Et certains d'entre nous pourraient dire, mais il est le roi. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut rester sur son divan. Et tous les adolescents dans la salle vont dire oui. Mais le problème, c'est qu'il est, il est roi. Tu ne restes pas sur ton divan toute la journée. Et spécialement si tu as été appelé comme un roi et que tu as un but d'être un conquérant, un roi. Notez, tu es supposé avec ton peuple se le commander, mais lui, il a choisi d'être oisif toute la journée sur son divan. Dans les versets, il y a des signes. Dans d'autres versets avant, il y a des signes d'inactivité subtile et de manque de leadership. On nous dit qu'il envoie Joab au combat, ce qu'il n'aurait pas dû faire, mais qu'il rejoint plus tard la bataille. Mais David, dans le chapitre 10, il dit « Je dois aller ». Mais Joab est déjà à la bataille. Et dans le verset 10, c'est une indication d'un certain changement qui se passe dans son cœur. Et si vous allez même dans 2 Samuel, verset 5, 13, la scène est que alors que tout le monde semble bien aller, tout se passe bien, le roi David s'entoure, il s'entoure de plus de concubines et d'épouses. Une histoire à côté, si vous entendez cela, cette partie de l'histoire est descriptive et non prescriptive. Descriptive car elle rapporte un fait sans donner de commandement ou d'approbation morale. Prescriptive voudrait, des écritures prescriptives voudraient dire que l'écriture en fait une règle ou un modèle à suivre, ce qui n'est pas le cas à suivre. Et c'est qui. Et il n'y a pas un endroit où la Bible approuve cela, avoir beaucoup de femmes et beaucoup de concubines. Et allant à la photo de David, voici une photo d'une reproduction de David de Michel-Ange prise dans le jardin d'un ami. Si. Ça vient du jardin de mes amis. On dit que c'est ça quoi. Alors, j'ai vu ça. J'ai pris la photo parce que je savais que j'allais enseigner sur David. Et voilà pourquoi je mets la photo. Si le roi David ressemblait à ceci, est-ce que l'incident de Bathsheba allait toujours arriver? Et on dirait absolument, le problème n'est pas le problème physique, l'apparence physique, mais c'est un problème de cœur. Regardez à quoi il ressemble. Vous savez, comme quand vous travaillez avec vos mains, mais je suis pasteur et mes mains sont douces, mais les gens, vous savez, qui des mains dures, qui travaillent avec leurs mains, comme lorsqu'on a des ampoules aux mains, et si on les soigne tout de suite, elles guérissent. Mais si on continue à faire ce qui les a causées, elles deviennent... Vous savez ce qu'elles deviennent? Elles deviennent de callosité. Et c'est pareil pour le cœur, n'est-ce pas? David s'est allé à déléguer des responsabilités et rester inactif jusqu'à ce que son cœur ne soit plus sensible, mais endurci, juste comme toi et moi. Et qu'est-ce que David fait à la suite? C'est juste s'excuser et se justifier son cœur qui est devenu endurci. Quand on va dans le verset 3, on apprend pour la première fois son premier nom avec une courte phrase. On dit Bathsheba, la fille de Eliam. Certains érudits pensent qu'il s'agit d'Eliam, l'un des vaillants guerriers de David mentionné en 2 Samuel 23, et que son père, Ahithophel, si c'est la même personne, alors son père serait Ahithophel. Serait donc le grand-père de Bathsheba et Ahithophel, et son père est Eliam. Si on va dans 2 Samuel un peu plus loin, on dit que Ahithophel deviendra plus tard le conseiller d'Absalom. Et on trouve dans cette même histoire que Ahithophel avait trahi David. Il a pris le côté de Salomon et de Absalom pour devenir roi. Alors cet incident pourrait être la raison qui a poussé à ce qu'Ahithophel trahisse David. Contrairement à ce que certains imaginent, certains pensent, et je me souviens en train de grandir lisant cette histoire, j'imaginais et croyais que quand on lit cette histoire, on se dira que Bathsheba avait fait la séductrice pour que tout le monde voit ou pour que tout Israël voit. Contrairement à cela, nulle part dans la Bible ne la présente comme une séductrice. C'est David qui l'aperçoit, comme elle s'est purifiée de ses règles. Aucun lieu. On la parle de... C'est David qui la regarde, qui a... Et dans le verset 4, il est dit... On voit entre parenthèses, David, elle s'est purifiée. Elle s'est purifiée parce que c'était pendant ses menstruations. Et probablement dans un endroit privé, dans un lieu dans sa maison, et David la voit. Quand on va au verset 4, il est dit, David envoya des gens pour la prendre. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Puis elle se purifia de son impureté, puis elle retourna dans sa maison. Au lieu d'utiliser son pouvoir pour mener la guerre, pour aller à la guerre, comme le roi, David et qu'est-ce qu'il fait? Il emploie pour avec quatre, il y a quatre verbes qui décrivent et qui sont soulignés. Quels sont les quatre verbes? Envoie, prend, vient, couche. Très rapide. Parce que ça indique qu'il y a une personne qui abuse. Quatre verbes rapides pour montrer l'abus du pouvoir. Et puis il y a une autre personne qui est vulnérable et une victime silencieuse. Le seul mot qu'on entend d'elle dans ce passage, c'est le verset 5, où elle envoie les gens dire « Je suis enceinte ». Il n'y a aucun endroit dans toute l'histoire où Bathsheba a ses plaintes, où elle a accusé. La narration centre sur David. Son silence n'est pas un consentement. C'est une marque d'impuissance dans cette situation, c'est tout. David, c'est lui qui a toute l'autorité. Et il l'utilise d'une très mauvaise façon. Et David envoie Joab et il dit, quand je t'envoie là-bas, amenez Uri vers moi, le mari de Bathsheba. Il est temps de dissimuler son acte en faisant venir Uri. Le plan ici est ceci. Il planifie que Uri revienne pour qu'il couche avec sa femme, pour qu'il puisse, parce qu'elle est enceinte, pour que ça passe comme si c'était lui. Mais Uri, pour que la responsabilité de cette grossesse aille au mari. Mais Uri refuse d'aller avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne veux pas aller coucher avec ma femme pendant que mes compatriotes sont en train de se battre dans le champ de bataille. Ne sent-il pas l'attitude, cela ne ressemble-t-il pas à l'attitude que le roi devrait avoir? David essaye de faire autre chose. Il essaye de l'enivrer parce que n'importe quel homme qui a été avec sa femme pour longtemps et a mélangé cela avec l'alcool, ça c'est un bon plan, j'imagine. Uri, ce qui devait être si enivré, qui n'était même pas capable d'arriver chez lui. Encore une fois, son plan échoue. Il a un autre plan, dernier stratagème. Il envoie Uri au front avec une lettre à remettre à Joab. Uri saisit la lettre, va à la guerre. Et il, jusqu'à ce que tu donnes ça à ton commandant, mon neveu Joab. Joab, la lettre dit à Joab, mets-le au front de ligne, mets-le au front à la ligne, à l'endroit le plus dangereux. Et quand la bataille est arrive au plus mauvais moment, et retourner en arrière et laisser ce monsieur mourir. David ne veut pas seulement cacher, il envoie avec sa, il écrit sa, de son propre stylo, envoie un ordre d'exécution à Joab. Son cœur est allé très loin. Il a été plus que fidèle à la fidélité envers le roi, envers Israël. Et quand il va vers Joab avec la lettre, il ne sait même pas ce qu'il est en train d'amener comme c'était sa propre sentence. Il ne pouvait pas l'ouvrir parce que... Et David sait tout cela. Le message... Et puis, Uri envoie un message à David. Et voilà comment il dit que au verset 25, le roi se dit ceci, à l'annonce de la mort d'Uri, ne t'afflige pas de cela, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Et voilà ce qu'il est en train de dire. Quand il apprend la mort de Uri, c'est la guerre. Et il y a des... Il y a des choses qui arrivent à la guerre. Voilà l'état endurci de son cœur. Cette réaction nonchalante à la mort de quelqu'un. Ce qui était une affaire privée, il en fait quelque chose de public. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il tue un homme, Uri, et il a l'intention de tuer beaucoup d'autres. Parce que quand vous lisez l'histoire, il dit quand les gens reviennent derrière, pas seulement Uri est mort, mais beaucoup de gens sont morts. Pas seulement une seule. Ça a été c'est parti d'une situation privée, la mort de beaucoup de gens en public. Et ici, David brise au moins 4 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne tueras pas et tu ne mentiras pas. Au moins 4. Tout cela en une seule crise. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon histoire, et certains connaissent, j'ai deux filles, et si, et cela ne compte même pas ce qu'il a, les commandements qu'il a. Si un de mes enfants arrive, je vais leur envoyer qu'elle aille parler à sa tante, parce qu'elle est quoi? Et c'est une sœur qui vit dans un couvent. Et si cet incident était arrivé avec ma fille qui amène un de ces garçons en brisant je le déshonore pas publiquement, beaucoup de gens, je pense que chrétiens vont ou non chrétiens vont être d'accord avec moi. Mais l'histoire ici, c'est que Dieu ne déshonore pas le roi David. Il ne lui dit pas, va-t'en. Ne sais-tu pas que tu es un roi, que j'ai pris et que j'ai élevé? Tu ne sais pas que tu devrais être franc, mais rien ne se passe comme ça. Pourquoi? Je pense que, comme l'ancien pasteur Tim Keller dirait, je pense qu'il dirait ceci. L'histoire de David n'est pas à propos de David étant un homme merveilleux, c'est à propos de Dieu étant un grand sauveur, un grand Dieu. C'est ça le point. Ce qui est choquant, si vous voulez être honnête avec vous-même, je pense qu'on va être d'accord que ce que Jésus a fait, c'est que Jésus nous a ramenés vers lui au lieu de nous chasser, et plus pendant que nous avons mal fait. Et voyez-vous, ça nous ramène proche de Dieu, cette histoire, alors que nous méritons d'être repoussés. Jésus a... nous a purifiés, a pris notre place, avec versé son sang, et l'Écriture nous rappelle aussi dur, aussi endurci que David était, mais l'histoire ne finit pas là, par là. Ce qui me conduit au deuxième point, la souffrance. La conséquence du péché. L'histoire de David et Bathsheba continue en Samuel 2:12, qu'on n'a pas lu. Il est important de reconnaître, elle devient gênante avant de s'améliorer. Et il y a une souffrance avant la guérison. Et dans le chapitre 11, si vous avez remarqué, peut-être que je ne l'ai pas souligné, mais je l'ai dit plusieurs fois, le terme « envoyé », le mot « envoyé » ou « envoya » revient 9 fois. Si vous voulez le souligner, « envoyé »,« envoya », c'est 9 fois. David envoie des messages et les gens pour accomplir sa volonté. Et ça va jusqu'au verset, au chapitre 12, où il était en train de bâtir un cas du verset, et verset premier du chapitre 12, qu'est-ce qu'il a dit? Et l'envoya, et l'Éternel envoya Nathan vers David. David envoyé, et maintenant c'est le Seigneur qui envoie. Par sa grâce, Dieu a envoyé. Savez-vous pourquoi? Parce que David ne pouvait pas se réaliser de cela par lui-même. Si tu as tué beaucoup de gens, si tu veux avoir beaucoup de cas d'infidélité, vas-y. Mais Dieu envoya Nathan. Il envoya une communauté pour aller guérir cette personne qui était brisée. Mais une chose ici, c'est que le Dieu n'est pas inactif. Mais il envoie sa parole à David, pas à Bathsheba. Alors le prophète Nathan, qui parle au nom de Dieu, raconte David une parabole qui semble concerner quelqu'un d'autre. Ça serait une version courte de cette parabole. Alors Nathan commence avec, il y avait deux hommes, un riche et un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une seule petite brebis qu'il avait achetée. Il nourrissait, il la grandissait, elle grandissait avec lui et ses enfants. Mais un jour, le riche reçut de visiteurs, au lieu d'utiliser prendre un animal parmi tout ce qu'il avait. Et David, il a pris cela, il a pris celui de pauvre. Et David est furieux quand il entend cette histoire. Et sa première réaction, cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dit, en répondant, tu es cet homme. Mais notez ceci, dans le chapitre précédent, David est allé d'extrême en extrême. Il va de cette émotion extrême de suivre ses émotions, conduit par ses émotions, où il voulait à tout prix avoir quelque chose. Et là, maintenant, de la convoitise à la colère. Et si vous n'avez pas remarqué cela, sinon, dans notre culture aujourd'hui, notre culture enseigne que plus un homme conquiert des femmes, plus il est viril. Plus tu couches avec beaucoup de femmes, plus il y a un grand homme, plus tu es un vrai homme. C'est ça que la société enseigne. Si vous ne saviez pas, cette année, il y a un documentaire qui a été produit. Je le dis, je ne l'ai pas vu, mais je le lis à propos. Qui parle d'une femme ayant eu des rapports avec 1057 hommes en 24 heures. Ne soyez pas choqués si le cœur est, et ils veulent documenter cela. Célébrer cela. Pourquoi ne pas célébrer l'inverse? Continuer à enseigner l'opposé d'une bonne façon. Savez-vous, Laura et moi avions la possibilité d'être intimes avant le mariage. Ça serait facile pour moi, pour être honnête avec vous. Parce que moi, j'ai toute ma vie, j'ai été non-chrétien. Et c'est, voilà, beaucoup, une grande partie de ma vie, si elle disait oui. Mais nous deux, on a dit non. Parce que je pense que un vrai homme et une vraie femme qui ont l'opportunité, ils doivent dire non. C'est facile de dire oui, n'est-ce pas? C'est si facile de dire oui. Mais dire non, ça prend la discipline, la conviction, ce qui est extrême. C'est ça c'est ça qui fait de toi un vrai homme, de dire non. Nathan rappelle ensuite à David tout ce que Dieu lui a donné. Et après cette parabole, ne te souviens pas ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu a fait. Et Nathan lui dit, et après avoir dit tout ce que Dieu t'avait donné, si ce n'était pas assez, toi, roi David, qui es assis sur le trône, Dieu t'aurait donné plus si ce n'était pas assez de tout ce que tu as eu. Et dans 2 Samuel 12, 13, David reconnaît son péché devant Dieu et nous savons qu'il est pardonné, mais doit affronter les conséquences. Il est pardonné pour ses péchés, mais il y a des conséquences. On vous trouverait plus tard quand que ses descendants vont aller à travers la guerre, des meurtres, des trahisons. Et on trouve même plus tard que l'enfant conçu avec Bathsheba mourra également, soulignant la gravité du péché et de ses répercussions. Comme l'a dit Augustin, le théologien du 4e siècle, il dit: Ô Seigneur, tout ce qu'il y a de bon en moi vient de toi. Le reste est de ma faute. C'est cette attitude que Dieu voulait que David adopte. Et il l'a fait. Savez-vous, David seul supplie pour la vie de l'enfant. C'est David seul qui prie et qui jeûne, mais Bathsheba reste silencieuse tout le temps. Signe que cette relation n'était pas mutuelle. Elle doit endurer tout. Et elle doit endurer la de d'une de la on dit que la perte de son mari. On dit que dans le verset 26 et 27, après avoir appris que son mari était mort, vous savez ce qu'il est dit? Qu'elle pleure. Elle pleure son mari qui a été assassiné. Et on doit prendre cela en considération parce que Bathsheba, elle était brisée, elle était dévastée à cause de ce que David avait fait. Elle a pris les 7 jours pour pleurer son mari, probablement le premier amour de sa vie. Et le péché de David n'est pas loin de nous. Si nous pensons le contraire, ça c'est un problème de David. J'ai rien fait et tu vas souffrir avec David. Comme le pasteur Vody Bosham, pasteur du Texas, il dit: L'homme le plus sage de la Bible est tombé dans le péché sexuel. L'homme le plus fort de la Bible est tombé dans le péché sexuel. Et l'homme le plus pieux de la Bible est tombé dans le péché sexuel. Penser que je suis à l'abri de ces péchés, c'est penser que je suis le plus sage que Salomon, plus sage que Samson et plus pieux que David. Je sais que certains ici luttent avec le péché et la tentation sexuelle. Je le sais. Je parierais ma vie sur cela. Mais quand vous lisez ce qui s'est passé avec David et Nathan, ça nous encourage de confesser, de nous repentir et savoir que tu n'as pas besoin de souffrir seul parce que Dieu a envoyé la grâce. Comme David qui a reçu la parole de Dieu et a été convaincu par le Saint-Esprit, et il n'est pas mort pour ses péchés par la grâce, mais quoi? Il a été totalement restauré comme un homme. Après l'homme auprès du cœur, l'homme au cœur de Dieu. Jésus est plus que disposé à porter tout péché sexuel que vous lui confierez, parce que sa grâce est suffisante. Et cela me conduit au troisième et dernier point, l'abandon. Le scandale, la souffrance et l'abandon. En poursuivant l'histoire, nous voyons que David accepte finalement la mort de l'enfant. C'est l'enfant que Bathsheba avait porté. Il se soumet à la volonté de Dieu et qu'il apprécie ou non, sa soumission est pleinement exprimée dans le psaume 51. Un psaume que David, le roi David, a écrit pendant la repentance de ce tragique événement. Mais pourquoi Jésus veut se soumettre volontairement à Dieu. parce qu'il sait que Dieu ne confronte pas le péché pour le blesser, mais pour le guérir. Pensez à cela de cette façon. Si toi et moi avons un os cassé et le médecin ne le dénonce pas pour vous faire le mal, pas pour te faire du mal, le docteur ne te dit pas que tu as un os brisé pour te faire du mal, mais quand il fait un bon diagnostic, c'est alors que la guérison peut arriver, peut survenir. Et de cette même façon, un bon diagnostic, et de cela, on va dire que nos plus grands brisements, ton plus grand péché n'annule pas la fidélité de Dieu. Nos plus grands échecs n'annulent pas la fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle en pardonnant comme il avait promis plus tard. Pourquoi on le sait? Parce que quand l'histoire va continuer, on va trouver qu'après que l'enfant est mort, après qu'il ait le pardon, après la restauration, on trouve plus tard que Bathsheba donnera naissance à un autre fils. Et ce fils, c'est Salomon, dont le nom signifie Shalom, paix. David et Bathsheba ont reçu la paix. Et c'est pourquoi ils ont eu Salomon. Et quand on va dans 2 Samuel, Dieu donne à Salomon un autre nom. Un autre nom qui veut dire Jedidia, qui veut dire bien-aimé de l'Éternel. D'une histoire tragique et brisée sort la bonté de Dieu à travers Salomon pour leur dire que, et cette bonté continue. Parce que la victime silencieuse devant une reine influente jouant un rôle majeur sous le règne de son fils, elle devient assurante. La rédemption va encore plus loin. Uri lui-même, qui est mentionné dans la généalogie de Jésus, dans Matthieu 1, 6, tous sont restaurés par la grâce divine. Et je veux conclure. Vous savez, quand j'étais au lycée, je me souviens de mon pupitre couvert de graffitis. C'est pas ceci, mais ça ressemble à cela quand vous allez dans les églises, dans les écoles publiques. Savez-vous ceux qui ont grandi avec ces genres de où on aurait pu jeter, où tu mettais ton nom sur le bois avec un stylo de différentes couleurs et avec des mots des fois obscènes pour de définir comment tu étais le meilleur. Et tu mettais le nom de la fille que tu aimais dans un cœur. Juste comme sur le top de... Et vous savez, ce qui est ce qu'il y a en bas, il y a toujours de chewing-gum. Ou que dégoûtant quand vous allez tousser et toucher, c'était dérangeant. Mais ces tables ont une histoire. De le jeter, ça serait facile. De le jeter, ça serait quelque chose de facile. Ou bien on peut aussi on pourrait les restaurer, les nettoyer. Comment on peut le... On veut une personne, et pour cela, qui prendrait le temps, une personne innocente qui va restaurer, nettoyer, penser et le remettre à neuf. et on n'aura pas besoin de jeter cette table. Comme le couple que j'avais parlé, il y avait un couple qui parle cette histoire, qui en parlait. C'est que Dieu fait pour quiconque et Dieu fait pour tous ceux qui invoquent son nom, la restauration. Et je pense comme Tim Keller dirait, il dirait ceci, la Bible, le héros de cette histoire n'est pas David, mais c'est Dieu. David a pris une femme qui n'était pas la sienne, il a pris la ville de Uri. Il s'est soustrait de son devoir de roi et de guerrier. Mais Jésus, le véritable roi, n'a pas pris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a donné. Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa vie en rançon pour beaucoup. Là où David est resté dans un confort, dans le confort, restant sur son divan toute la journée, Jésus est entré dans la bataille. Au lieu de rester oisif, il est entré dans la bataille contre le péché et la mort. Là où David a provoqué la mort pour couvrir son péché, Jésus a donné sa vie pour expier le nôtre, afin que nous ne puissions pas mourir. Alors notre espérance n'est pas en David, mais c'est en Jésus, le fils de David, le vrai roi et le sauveur de nos pécheurs, de nos péchés, pardon. Prions. Alors Jésus, nous venons devant toi maintenant. Il y a si nombreux d'entre nous qui te suivent, qui ont donné leur vie, qui te l'ont donné leur vie parce que tu as fait des choses profondes dans leur cœur à travers ton Saint-Esprit. Peut-être en ces moments de réponse, alors que nous continuons de t'adorer, puissions-nous venir avec foi que tu vas nous restaurer comme tu as fait pour David. Fais cela aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient venir avec gratitude. Certains d'entre nous ont des cœurs qui sont blessés et endurcis. Je prie que tu puisses nous régénérer. Et ceux d'entre nous qui sont loin de toi, qui entendent cette parole pour la première fois, travaille dans leur cœur, travaille. Pas seulement propos de péchés sexuels, mais tout genre de péchés et la conséquence de tous ces péchés, la tricherie, la couverture et toutes autres choses qui ont des effets dominos. Voudrais-tu le faire? Toi seul peux le faire. Restaure-nous aujourd'hui dans notre but original. Et nous prions en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Église, nous allons chercher ici. Il y aura une chanson peut-être que...